Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes courtes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap,
chiffon, chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rencontrer une de mes proches amies. Sonia a 40 ans, elle est maman de 2 petites filles et est une vraie passionnée de mode. Son dada chinait des heures pour trouver la pièce rare. C'est quand même la seule dans mon entourage capable de dénicher un blouson en polonais à 20 euros. Oui, 20 euros. Sonia aime mixer tous les styles. Sa définition de la mode, savoir s'amuser avec son image, ne pas forcément suivre les tendances et surtout s'approprier son vestiaire. Hello Sonia.
Hello Valérie.
Ouais, on se dit hello parce que on est copines. Ouais, on se connaît. C'est vrai que le dernier épisode, j'ai invité 2 copines. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je n'inviterais pas une de mes copines? Parce que toi, en plus, tu as un sens particulièrement aigu de la mode. Tu aimes ça, tu aimes les fringues et tu as aussi un parcours professionnel très intéressant en lien avec la mode. Mais j'aimerais qu'on en parle de ce parcours parce qu'il n'a pas été linéaire. Mmh. Et tu as des petits messages à transmettre, notamment aux jeunes qui nous écoutent. Je te cite. J'aimerais que mon témoignage puisse servir aux jeunes qui nous écoutent. Alors, j'ai décidé de lire ce que tu m'as envoyé pour préparer cette émission. Oui, c'est une interview un peu différente des autres. Alors, écoutez. Montrer le parcours d'une vendeuse qui devient, après quelques années, directrice retail. Oser. Oser se mettre en danger en quittant une maison comme Saint-Laurent pour monter un bar à pâtes. Passer par la fenêtre lorsque l'on vous ferme la porte. Dire que l'on sait faire alors que l'on ne sait pas faire, mais quitte à apprendre en cachette pour être à la hauteur de soi-même avant tout et d'un futur poste que l'on pensait ne jamais avoir. J'ai appris la vente, les codes du commerce du monde du luxe, puis la gestion de stock, puis la direction d'une boutique, puis le management. Tout ceci sans école de commerce, avec pour simple savoir-faire l'école de la vie. Tomber pour mieux se relever et mieux comprendre où étaient nos erreurs. Se servir de ces erreurs comme une force et se dire que quoi qu'il arrive, ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
J'adore alors, cette phrase.
C'est toi qui l'as dit. J'ai lu ce que tu m'as écrit en intégralité.
Je trouve que ça résume bien l'école de la vie. Ce qui ne tue pas me rend plus fort.
Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours? Parce que, alors, donc, tu as commencé par être vendeuse chez Zara, c'est ça?
Alors, au tout début chez Zara, après chez Agnès B. C'est chez Agnès B que j'ai pu rapidement évoluer après au poste de direction de boutique. Et après Agnès B, j'ai travaillé chez Yves Saint Laurent. Où là, j'ai réappris, je suis repartie de zéro, parce que c'est pas du tout le même univers, c'est pas la même clientèle. Même si j'ai adoré la maison Agnès B et ses valeurs, le monde du luxe est très différent, donc j'ai voulu apprendre autre chose. Et pour apprendre autre chose, j'ai dû redémarrer aussi de zéro, donc repartir à la vente. Et après 2 années et demie chez Yves Saint Laurent, mes premiers amours étant la cuisine, j'avais un peu cette idée en tête. Et je me suis dit, bon, si je reste chez Saint Laurent, je suis un peu sur l'autoroute de l'évolution. Et j'étais jeune, j'avais déjà ma première fille.
Tu avais quel âge?
J'avais ma première fille qui avait 2 ans, donc tu vois, j'avais 28 ans. Mm-hmm. 28 ans. Et je me suis dit, c'est maintenant, j'avais cette envie, donc voilà. Et j'ai monté un bar à pâtes à l'époque où les bars à pâtes étaient en pleine explosion. Alors après, moi, c'était pas une franchise, hein. Le but, c'était de cuisiner, donc je faisais tout moi-même. C'est ce qui m'a plu, d'ailleurs.
Donc, tu achetais les ingrédients, tu cuisinais, tu servais.
Tout. Toutes les sauces de pâte, tous les desserts, tout. Je faisais tout. Mais ça a été surtout un énorme challenge au-delà de la cuisine, de monter son propre business, en fait. De déjà défendre son business auprès des banques, parce qu'on était en pleine crise. Donc, autant vous dire que quand tu arrives et que tu as travaillé chez Yves Saint-Laurent, que tu as 27 ans, et que tu dis « faites-moi confiance, prêtez-moi pour monter un bar à pâtes », tu n'as pas grand monde qui te suit. Donc, il faut apprendre à être convaincant. Et surtout y croire, voilà, j'y croyais beaucoup, donc ça m'a bien aidé. Et puis voilà, ils m'ont suivi et l'aventure a duré 3 ans.
Et après ?
Après, j'ai revendu le restaurant, donc pour moi ça a été quand même une réussite parce que voilà, j'ai pas mis la clé sous la porte, j'ai généré du chiffre.
Ton concept a été repris.
Le concept a été repris, ouais. Mmh. Ouais. C'était dans le passage Choiseul, donc c'était quand même un lieu magnifique. C'était une chance aussi de travailler le midi et pas le week-end et pas le soir. Voilà, donc c'était pas la course aux chiffres non plus. L'idée, c'était de se faire plaisir quand même avant tout, quoi. Et donc, après, j'ai revendu. Et un mois plus tard, j'ai été recrutée par APC. En fait, l'idée, c'est que...
Alors, tu passais d'un bar à pâtes, ouais, à APC, en, ouais, boutique?
Non. Alors, l'idée, c'était justement que j'avais fait quand même 10 ans de retail. J'avais occupé tous les postes du retail, de vendeuse à directrice de boutique, jusqu'au luxe. Et finalement, cette expérience d'entrepreneuriat, je voulais en tirer quelque chose. J'en étais quand même hyper fière. Et je me voyais pas repartir en direction de boutique et ne pas me servir de cette expérience de monter une structure, une société, quelle qu'elle soit, même si c'est de la cuisine. Et que ça ne serve pas à monter une marche supplémentaire. Donc l'idée, c'était de chercher un poste d'animation de réseau qui faisait sens, je trouvais, avec l'idée d'être son propre patron.
C'est quoi l'animation de réseau ?
Animation de réseau, bah, c'est quand on gère plusieurs boutiques, mm-hmm, et qu'on s'assure du bon fonctionnement des magasins. Mais ça, c'est un petit couteau suisse, où on gère autant le recrutement que la gestion de stock, que la formation des vendeurs, que voilà, ça me plaisait énormément d'avoir plein de sujets différents à gérer. Ça faisait sens avec mon envie d'entrepreneuriat, en fait. Et puis le poste de direction boutique, j'ai adoré, mais je me voyais pas refaire ça après l'expérience d'avoir monté sa structure et d'avoir géré son business.
D'avoir été capitaine du bateau.
Exactement.
Alors, il y a un truc que tu m'as raconté il n'y a pas longtemps, c'est une anecdote. En fait, tu es rentré dans une boîte et on t'avait demandé si tu connaissais Excel. Tu avais dit oui, alors qu'en fait, tu ne connaissais pas du tout Excel.
Ouais.
Et tu l'as bossé la nuit en allaitant ton bébé, c'est ça ?
Ouais. Ben, en fait, c'est autant mon pire défaut que ma plus grande qualité. Je suis quelqu'un de très têtu et acharné. Alors, ça fait un peu le malheur de mon entourage parce que parfois, je peux avoir 200 personnes qui me disent que je vais faire une connerie et puis malgré tout, j'y vais quand même parce que je suis la seule à y croire. Et en fait, là, j'y croyais vraiment et j'ai passé l'entretien. Et ne sortant pas d'école de commerce, ben, pour gérer un réseau, c'est toujours un peu compliqué parce que en France, on a un peu ce... De moins en moins, je pense qu'on y revient. Hein, mais bon, bref, pour reprendre l'histoire là où je l'ai laissée.
C'est vrai qu'en France, on existe au travers d'un diplôme, point barre.
Ben, ça rassure. Mmh. Alors, on gère un business, on gère un réseau, on gère un commerce, eh ben, on doit avoir fait une école de commerce. Mmh. Et malgré tout, le fait d'avoir travaillé dans le retail pendant 10 ans était quand même, je pense, rassurant pour l'employeur. Et les 2-3 petites questions lambda de vous connaissez Excel, PowerPoint, vous n'avez pas de soucis, mais comme si c'était même pas un sujet en fait pour lui. Moi, j'étais plus jeune et j'avais heureusement le culot de répondre oui, c'est pas un souci. Autant dire que je savais même pas faire un carré sur Excel, mais j'avais quand même ce culot, tu vois, de me dire je vais pas passer à côté du poste pour un truc qui va me prendre 15 jours et un peu de travail en back-office.
C'est
quoi.
Ce que tu disais très justement, apprendre en cachette pour être à la hauteur de soi-même avant tout.
Exactement.
Pour avoir un futur poste. En fait, qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes ? Aux jeunes et aux moins jeunes.
Aux jeunes et aux moins jeunes, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de vivre et puis tout ce qui va arriver aussi... Hein, il faut pas se décourager, voilà. Mon parcours, il est certes atypique, et c'est pas, je veux pas le mettre en avant pour être narcissique, ni pour donner des leçons, bien au contraire. Je pense que il y a peut-être une époque plus simple que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais comme dans toutes les époques où on vit des choses difficiles, il va y avoir du positif derrière, toujours.
Bien sûr.
Donc mon message, c'est aussi de dire à toutes ces personnes qui travaillent en boutique, et j'en ai côtoyé, j'en ai recruté tellement, des gens autodidactes. Certains ont fait des études, n'ont jamais trouvé le poste à la hauteur de leurs rêves. D'autres n'en ont pas fait et se disent qu'ils sortiront jamais du monde des boutiques. Parce qu'il faut rentrer dans une case, parce que il nous manque justement peut-être cette petite partie tableau Excel. Voilà, c'est deux mondes très différents. Pour avoir géré un réseau, avoir fait partie des deux mondes, c'est deux mentalités très différentes. Mais l'idée, c'est de dire que oui, on peut être vendeuse chez Zara et finir directrice réseau, et que malheureusement, parfois, il faut être malin. Il faut apprendre aussi un peu à mentir. Regarde tous les hommes qui ont, tous les gens qui ont réussi ont quand même eu à un moment donné du culot. Je veux dire, le travail paye toujours, mais ça suffit pas en fait. Il faut aussi avoir le culot et puis il faut pas avoir peur de se planter en fait. Il faut pas avoir peur de l'échec. Je tente, je sais pas faire.
De toute façon, à l'époque, l'époque dans laquelle on vit. Faut plus avoir peur de rien. On n'a plus rien à perdre, en fait.
Exactement. Mais tu sais, justement, j'adore cette phrase, on n'a plus rien à perdre, parce que je crois que quand on est autodidacte et que quand on s'est planté plusieurs fois, on n'a plus peur de se planter. Et c'est là qu'on fait les bonnes choses et qu'on fait les bons choix.
Alors, tu es directrice retail. Mm-hmm. C'est ça, ton poste?
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler du retail, du wholesale, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est.
Alors, le retail, c'est les boutiques. C'est les boutiques en propre de la marque. Alors après, il y a beaucoup de fonctions de direction retail selon les sociétés. Il y a des postes d'animation retail, direction retail. Vous pouvez ne gérer que les boutiques ou gérer davantage. On va dire que dans la dernière fonction que j'avais, je gérais donc le e-commerce, le CRM marketing, le visuel merchandising, qui est donc les vitrines, et le retail. Donc, à savoir les affiliés, les boutiques en propre et les grands magasins.
Alors justement, là, tu es en train de tirer une sonnette d'alarme aussi sur le retail, qui est en train de souffrir. Et tu penses que tout est à refaire et tout est à réinventer. Que la clientèle de demain, je te cite, a besoin de revenir à des principes et valeurs sûres. La clientèle a besoin de conseils, d'expertise et d'accompagnement. Et aussi de contact humain avant tout.
Ouais. Je pense qu'il y a tout à faire dans le retail encore. Et que ce qui vient de se passer, malheureusement, touche en premier lieu le retail.
Bah oui, parce que les gens ont maintenant pris le réflexe d'aller commander sur Internet et sur Amazon.
Exactement.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là?
Alors moi, je dénigre pas forcément le e-commerce. Je pense que c'est un réseau parallèle de business qui correspond aussi à nos vies. Hein. Je veux dire, regarde aujourd'hui les vies qu'on a, quoi. Quand on travaille, on a des enfants, qu'on vive à Paris ou à Marseille, on devient tous des robots. Il y a 20 ans, tu quittais ton bureau, tu n'avais pas de portable, tu n'avais pas de mail et tu dînais en famille. Aujourd'hui, si on n'a pas la force mentale de mettre un stop, on s'y perd. Et donc, le e-commerce correspond aussi à une manière de vivre aujourd'hui qui est très adaptée. Voilà, on commande, on regarde un film et en même temps, on fait du shopping sur son portable, on met son doigt sur le téléphone, on est livré le lendemain. Voilà, c'est toujours plus vite.
Toujours plus et consommer plus.
Exactement.
Au détriment des relations humaines.
Mais quand on gère le e-commerce, on se rend compte aussi qu'il y a du chiffre d'affaires. Mais enfin, ça ne représente quasiment jamais le chiffre d'affaires de tout un réseau de boutiques.
Important de le dire, ça.
Bien sûr, le e-commerce, alors ça dépend, je te parle pas d'Amazon ou de Zara, mais tu as des réseaux où le e-commerce représente le chiffre d'affaires d'un flagship. Donc le réseau boutique, il est loin d'être minimisé ou à prendre à la légère. Avant tout, c'est une vitrine pour la marque, chose que tu n'as pas forcément sur le e-commerce.
C'est une ouverture sur l'international aussi, j'imagine.
Bien sûr, c'est une présence. C'est quand on veut gagner une clientèle étrangère, faire aussi. On fait souvent des tests avec le wholesale, donc le commerce de gros entre guillemets. Avec les multimarques, on teste grâce aux grands magasins. On se dit, tiens, on va tenter en Allemagne, on va ouvrir trois corners. Et puis, si ça prend, si la marque plaît, on ouvre du retail. Maintenant, le retail représente des charges importantes. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de trafic, en règle générale, dans les boutiques. Mais quelque part, on a moins de trafic aussi parce que est-ce que le service que l'on propose est à la hauteur? Est-ce que l'expérience est différente? Après tout, pourquoi pas commander sur son portable? Parce que quand je vais en boutique, on ne m'apporte pas grand-chose de plus. Voilà.
C'est important de former les vendeuses, enfin on, maintenant on dit hôtesse, mais vendeuse, hôtesse, ouais, parce qu'il compte, c'est le lien humain, surtout.
Le lien humain, mais il n'y a pas que ça en fait. Hein, c'est quand tu fais du recrutement et du management, tu te rends compte justement qu'il n'y a pas de solution unique. C'est très bien d'avoir des formations, je pense plus sur le produit, sur le storytelling de la marque, qu'on donne aussi des outils aux vendeurs pour ne pas se retrouver à court d'arguments. Mais après, il y a un vrai travail de recrutement aussi pour rencontrer des gens qui prennent plaisir, qui aiment la mode, qui prennent plaisir ça à vendre la marque et qui prennent plaisir surtout à être dans le service vis-à-vis d'une clientèle. Mais c'est la même chose en restauration. Hein. Mm-hmm. C'est tous les métiers de service. En France, on n'a pas cette reconnaissance dans les métiers de service. Tu vas à Londres, un serveur d'une brasserie est très fier de venir t'amener un coca et il le fait avec le sourire, et peu importe son âge. Et voilà, donc il y a...
Je crois que là, il y a aussi des efforts à faire de ce côté-là en France.
Ah oui. Je pense qu'en fait, on doit tous se remettre en question. Évidemment que tu peux former les gens sur un réseau, leur dire que la porte ouverte, ça invite plus à faire rentrer les clients, que la musique trop forte, on ne s'entend plus parler.
Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, ça c'est vrai.
C'est des détails.
Pourquoi la musique est aussi forte dans certaines boutiques aussi? Pourquoi?
Bien sûr, ou pas assez forte. Ou pas assez forte avec des lumières glauques et puis t'as limite envie de ressortir au bout de 5 minutes. En plus, c'est la juste mesure entre être au service de la cliente, ne pas l'étouffer, être à sa disposition, mais ne pas lui sauter dessus non plus. Et ce curseur-là, ça ne s'apprend pas lors d'une formation. C'est une question d'éducation aussi,
bien sûr,
d'univers. Mmh. Donc, il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas une seule et même raison.
Alors, tu m'as aussi dit qu'on vit dans un monde qui fiche des complexes aux femmes. Qu'est-ce que tu entends par là?
Alors, on vit dans... J'ai écrit ça, moi?
Si, oui, tu l'as dit.
D'accord.
Tu l'as dit.
Ok.
Tu l'as écrit, plutôt.
On vit dans un monde...
La mode, c'est la mode plutôt, tu parlais de la mode, hein, j'ai mal repris ta phrase, mais en fait, en gros, tu me disais que la mode fait des complexes aux femmes. Si, tu l'as dit.
Alors, j'essaie de remettre dans le contexte où j'ai dû dire ça. Je pense que j'ai dû dire ça dans le contexte d'aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux... Et démonstration de son look, de son image, de ses vacances, voilà, qui souvent est voilà, on le sait tous,
néfaste,
exactement, ou parfois un énorme mensonge qui nous rassure nous-mêmes, mais qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, comme les hommes d'ailleurs, mais bon, puisqu'on parle des femmes et de la mode féminine en premier lieu, je pense qu'effectivement il y a un lien avec les vêtements que l'on porte et ce que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme, elle doit être quoi? Elle doit être 10 personnes en même temps. Donc, c'est très dur. On se met la pression, on se compare beaucoup. Il faut avoir une énorme force de caractère pour pas se comparer aux autres. Et grâce aux réseaux sociaux, on passe notre vie à regarder ce que font les autres en se disant que c'est toujours mieux ou qu'on est toujours
plus
belle.
Le métier est mieux, elle est mieux fichue, elle fait plus de sport.
Exactement. Elle
arrive à faire,
elle part en vacances.
Voilà, dans des beaux lieux.
Exactement. Donc, c'est difficile. Et c'est vrai que le vêtement n'est pas juste un vestiaire, une utilité. À l'inverse de la clientèle homme qui appréhende la mode d'une manière beaucoup plus simple. Mmh. Il y a une notion de besoin. Enfin, moi, j'ai travaillé à l'homme. La clientèle homme est très différente. C'est efficace, c'est un besoin, ça répond à ce que j'aime. J'aime telle marque, j'aime telle coupe, je vais prendre toutes les couleurs et je vais revenir.
Tu préfères travailler avec les hommes ou avec les femmes?
Alors moi, j'adore la clientèle femme parce que moi, ce qui me plaît, c'est de faire plaisir, d'embellir, et par le vêtement aussi, tu vois, j'ai plein d'amis qui travaillent pas du tout dans la mode, qui n'ont pas ce rapport à l'image, et qui, quand elles me voient, me disent « Oh, j'adore ça !» Mais tu vois, moi, j'oserais jamais le porter. Cette phrase, je l'entends tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps. Et je dis « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» ça tirait vachement bien, peut-être que ça, c'est un peu trop fort pour toi, mais tu pourrais oser un petit peu plus. Voilà, les femmes n'osent pas.
Elles n'osent pas sortir de leur zone de confort, et c'est valable aussi professionnellement parlant.
Exactement. Ou se faire remarquer aussi. Parce que tu sais, quand tu t'habilles en gris, en bleu marine ou en noir, tu te fonds dans le décor. Mais la démarche de choisir ces vêtements-là, elle n'est pas anodine. Il y a un côté psychologique. Quand tu t'habilles de manière très discrète, c'est que tu n'as pas envie qu'on te remarque. Tu as des femmes, à l'inverse, qui vont en faire des tonnes pour qu'on les remarque. Voilà. Donc, il y a quand même toujours un peu un lien avec la manière dont on se perçoit et de ce dont on a besoin. Et surtout, un aspect aussi très, très psychologique de si on est bien dans sa peau ou si on ne l'est pas.
Tu as toujours rêvé de travailler dans la mode ? Ou t'es arrivée là par hasard ?
Alors, je ne peux pas te dire qu'enfant, je rêvais de travailler dans la mode. Je ne peux pas te dire non plus que ça m'était égal, parce que quand j'y repense, je me revois petite, j'adorais les déguisements, par exemple. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça colle un peu avec ma manière de m'habiller aujourd'hui, c'est que je peux tenter 15 trucs différents et parfois me dire que j'ai fait un peu, enfin, que c'était un raté ou que je suis allée un peu trop loin. Mais je pense qu'il y a cette notion de déguisement. J'ai toujours adoré me déguiser quand j'étais petite. Et à l'inverse, parfois me foutre complètement de ce que je vais porter. Donc, c'était pas un rêve. Je pense que mon rêve au départ, adolescente, c'était de cuisiner. Mmh. C'était vraiment la cuisine. Et puis après, j'ai travaillé chez Zara. Zara venait juste d'ouvrir en France. C'était le tout début de Zara. Hein. Mmh. Donc, rappelle-toi, à l'époque, il y avait beaucoup moins de concurrence, de mode. Oui. Donc, je crois que c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer la mode.
Et t'as pas eu y a pas de tradition vestimentaire dans ta famille ?
Aucune. Aucune.
Enfin, y a quand même un lien avec ta sœur que je connais très bien. Salut, Aude. Vous adorez le vintage, toutes les deux.
On adore, ouais. On adore.
Vous avez l'art de trouver des trucs de folie, c'est ce que je disais dans l'introduction.
Ouais, bah parce que tu sais, en fait, il y a ce plaisir un peu de collectionneuse. Moi, je peux renoncer à acheter beaucoup de choses, que ce soit chez Zara ou même dans des marques beaucoup plus qualitatives où tu vas flasher sur une qualité ou une subtilité de couleur que tu vas pas trouver ailleurs, hein, parce que finalement aujourd'hui plus c'est simple plus c'est cher. Mmh. J'ai l'impression que c'est compliqué de trouver un joli pull bleu marine.
Ouais, pourtant oui, c'est très compliqué et en plus c'est très cher souvent.
Exactement. Et c'est vrai que par contre j'ai beaucoup de mal à ne pas acheter du vintage, parce que pour moi c'est une pièce unique, et le nombre de choses que j'ai achetées et que je n'ai jamais portées, hein, et qui sont dans mon dressing, parce que ben j'ai cet esprit aussi de
collectionneuse, un petit
de
peu.
Collectionneuse, et puis aussi je garde tout pour mes filles. Tu vois, par exemple, j'ai une boîte chez moi de tous les vêtements de bébés que j'adore, qu'elles avaient quand elles étaient bébés, et que je garde le jour où elles auront des enfants. Mmh. Tu vois, donc j'ai cet esprit un peu de
transmission.
Si, transmission, ouais.
Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner au niveau look? Que ce soit dans ta famille ou même au cours de ta vie professionnelle. Parce que t'as bossé avec des super directeurs ou directrices artistiques. T'as rencontré des gens qui avaient vraiment le sens de la mode. Est-ce qu'on t'a donné un conseil ?
On m'en a donné plein. Alors, j'ai deux, trois souvenirs en tête, intéressants. Premier souvenir, donc ça, c'est plutôt familial. Tu sais, quand t'es ado, tu te cherches, hein, t'essayes à peu près 15 000 looks différents. T'as absolument aucun recul sur toi. Quand un vêtement te plaît, tu l'achètes, tu le portes. Ou quand c'est la tendance, bah, tu suis la tendance. Sans te demander si ça colle avec ton physique, ta morphologie, etc. Donc, j'ai eu cette chance, en tout cas, que ma mère me laisse toujours porter tout ce que j'avais envie de porter. Et je sais qu'elle détestait ce que je mettais, parce que autant te dire que parfois, je partais vraiment très, très loin. Mais je crois que ça a fait partie aussi de cet apprentissage de soi-même et de... assez peu de complexes à porter des choses différentes. Mmh. Je ne me suis jamais posé cette question, voire même je ne m'en posais pas suffisamment, je pense. Et donc, j'ai eu cette chance qu'elle me laisse vraiment tout tenter, tout essayer.
Et quel a été ton pire fashion faux pas ? Est-ce que tu as un souvenir ?
Oh ben, j'en ai plein. Alors, en fait, avec le recul, c'est à l'époque où je travaillais chez Yves Saint Laurent, j'avais une directrice qui était super, Marielle. Si elle t'écoute, je serais ravie de la revoir. Et je me rappelle qu'elle me disait... Mais Sonia, vous ne voyez pas du tout comme vous êtes. Vous êtes tout le temps en train de porter des vêtements 10 fois trop grands pour vous.
Ah,
et tu sais ça, dans le retail,
volonté de
ça arrive tout le temps.
Ça aussi, non ?
Exactement. Ouais. Et puis, de ne pas se connaître. Vraiment, ça m'a pris énormément de temps. C'est-à-dire qu'en fonction de ta morphologie, mais de ton physique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu aimes, des couleurs que tu aimes, des motifs, qui vont aller très bien à quelqu'un d'autre, mais qui ne vont pas t'aller à toi. Et ça, c'est un apprentissage, je trouve... En prenant de la maturité, du recul, ça va aussi avec plein d'autres choses. Mais plus je vieillis, plus maintenant j'arrive à cibler les choses qui vont m'aller, parce que bah, j'ai des cheveux bouclés et que ça colle avec mon physique, ma peau, etc. Et plus je vais arriver à cibler aussi, ah ça j'adore, mais c'est pas pour moi. Tu vois ? Et ça, c'est très agréable.
À quel âge as-tu ce déclic ?
Ah, je dirais que c'est un peu en work in progress. Hein. Ça a pris quelques années. Quoi.
Et là, ce n'est pas encore fini. Donc, dans 4 ans, tu as les cheveux violets, c'est ça ?
Là, c'est différent. Là, c'est plus une question d'âge. C'est-à-dire que là, tu as 40 ans.
Maintenant, tu as eu 40 ans.
Ouais. Voilà. Et 40 ans, tu arrives quand même à un petit virage où il y a des choses que t'adores, mais tu te demandes si tu peux encore les porter.
Du genre ?
C'est un exemple tristement banal, mais un short en jean, par exemple, court.
Bon. Je suis en short en jean.
Non, mais tu vois, déjà.
Ah, t'as fait une gaffe. Alors,
non,
c'est déplacé.
Je fais pas une gaffe. Non, tu sais pourquoi? Parce que il faut jamais dire jamais. Voilà. Parfois, tu vas te dire, à 40 ans, un short court, tu peux plus le mettre. Oui, mais non. Dans quel contexte? Quel morpho? Toi, t'es toute fine. Tu l'as mis avec une chemise. Tu vois, il y a tout un ensemble qui colle avec toi. Mmh. Et puis, il y a des personnes qui vont te dire, à 40 ans, tu mets plus rien de court, sauf si tu vas à la plage, ou qui ne l'assument pas, tout simplement. Mmh. Voilà. Là, j'arrive plus à un âge où parfois je suis tellement dans un amusement au niveau de la mode et j'aime bien mixer plein de choses et tout, qu'il y a des jours quand même où je me dis, attends, t'as 40 ans maintenant, tu peux encore, mais ça peut être souffrir de jeunisme aussi, hein. Tu sais, c'est pas, il y a la vulgarité, il y a le jeunisme. Parfois, j'en vois plein d'ailleurs des gens 40-50 qui ont pas trop envie de vieillir et qui ont un look vraiment très teenager, quoi. Donc, c'est plus ça les questions que je me pose là.
D'ailleurs, tu parles de mode. Que penses-tu de l'expression « être à la mode » ?
Alors, je déteste cette expression. Pour moi, c'est l'anti-personnalité au plus haut point, quoi. Enfin, tu vois, et pourtant, j'ai une fille de 14 ans qui suit quand même des tendances et c'est propre à son âge et c'est
et pourtant,
complètement normal.
Et pourtant, en bossant dans le retail, tu suis aussi la mode.
Bien sûr. Mais alors, je suis la mode plus sous un angle haute couture. Évidemment, je suis les tendances parce que c'est le fil conducteur après de toutes les marques. Mais le côté être à la mode à titre personnel, ça m'intéresse pas.
Pour ressembler à tout le monde. Justement, ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, quand je regarde Instagram, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement là qui est de plus en plus, qui s'amplifie. Tout le monde se ressemble avec certaines marques. Alors, on va pas les citer, mais... certaines marques uniformisent considérablement les femmes, en fait. La mode et les femmes. Mm-hmm. C'est ça ce qui t'énerve aussi, j'imagine.
Bah, en fait, tu sais, quand t'as l'occasion de voyager un petit peu professionnellement, t'observes et tu vas à New York, par exemple, les Américaines se ressemblent toutes. C'est pour le coup, là où il y a des codes, c'est bien là-bas. T'arrives à Paris, il y a cette notion du vintage, d'ailleurs, qui est très présente à Paris, mais qui l'est parfois même plus à Londres, etc. Donc, j'aime bien l'idée que moi, dans un monde parfait, chacun devrait s'approprier son style, sa mode, son goût.
Oui, ça, c'est voilà. ce que j'ai lu dans l'introduction. Toi, pour toi, il faut s'approprier son dressing, son style. Ça, ce
exactement.
Serait ton monde rêvé.
Mon monde rêvé, c'est ça. Parce que ça voudrait dire que tout le monde serait bien dans sa peau.
Mais pour ça, il faut peut-être un petit peu se connaître, non ?
Il faut se connaître ou être bien accompagné aussi, bien conseillé.
Oui, ça rejoint ce que tu disais sur les vendeuses, notamment en retail.
Exactement. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de personal shopper au départ. C'était quand même le but.
Pour aider les femmes à être mieux dans leur peau, finalement.
Ouais, et puis après, à apprendre elles-mêmes à s'approprier et à s'en amuser, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu travailles dans le retail, tu sais, on fait des analyses de vente, des achats. Enfin, je veux dire, on est vraiment à décortiquer les ventes, le produit. Tu n'imagines même pas à quel point c'est compliqué dans les achats de sortir du noir, du gris et du bleu marine. Nous, on n'a pas cette vision-là. Parce que pour nous, un pull rouge, c'est facile à porter. Mais tu vas en boutique, tu côtoies les clientes, tu leur proposes un pull rouge, elles te disent « mais je ne sais pas avec quoi mettre ça ».
Mais il y a des tas de femmes qui n'osent pas. De toute façon, c'est ça le problème.
Mais
tu parlais d'oser tout à l'heure, mais c'est un mot que même moi, sur Instagram, j'entends « mais je n'ose pas ». D'ailleurs, là, je suis en jean, en short en jean court, je te le redis. Je suis très vexée par ta remarque. Non, je plaisante.
Mais non, mais
je l'assume
la plage,
complètement.
Non,
mais bien sûr, je vais à la plage, place de Clichy. Non, mais je l'assume complètement, justement. Mais c'est ça, en fait. C'est les gens n'osent pas assumer un pull avec trop de couleurs, avec trop de motifs.
Ou pensent ne pas savoir.
Ou pensent, exactement.
Question
ça, c'est
de confiance
encore
en soi. Ouais. Quand tu creuses, il y en a plein qui te disent ah non, mais moi, je sais pas. Ah bon, bah vas-y, tente, regarde. Avec quoi d'un. Bah ouais, j'ai pensé ça, mais je sais pas si je. Tu vois, les gens ont peur.
Ouais, c'est ça,
clair. Confiance.
Mais alors, il y a autre chose aussi qui m'intéresse chez toi, c'est le vintage. J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment une culture familiale, notamment avec ta sœur. Et comment tu fais pour trouver des perles rares? Parce que l'autre fois, tu nous as fait un défilé pour celles qui me suivent sur Instagram. Je n'ai jamais eu autant de vues sur des stories. Tu nous as déniché des perles, mais de dingue. C'est-à-dire qu'il y avait même une veste à 5 euros, c'est ça?
Ouais.
Une veste
3,
et 3 euros, pardon. Mais ouais. La veste en polonais à 20 euros, je rigole pas. Je l'ai vue, je l'ai eue entre les mains, je t'ai vu la porter. Comment tu fais? D'ailleurs, D'ailleurs, j'ai une première question. Qu'est-ce que le vintage? Parce que l'autre fois, je regardais sur un site de vente à Vinted. Alors maintenant, c'est la grande marque de maître vend chemise vintage. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quelle époque, etc. Donc déjà, première question, comment toi, Sonia, tu appréhendes le vintage? Qu'est-ce que c'est?
Bah écoute, je pense qu'il y a plusieurs vintage. Tu peux trouver des robes Yves Saint Laurent des années 60, et puis là, on est quand même sur...
Mais là, c'est un peu... Maintenant, c'est de plus en plus difficile, j'imagine.
Bah, disons que c'est pas plus difficile, mais je pense que ça a été tellement préservé que c'est pas dans un kilo shop que tu vas trouver une robe Dior. Voilà, clairement. Mais pour moi, le vintage, bah, c'est le vêtement en fait qui a traversé une époque, quoi. Mais ça peut être les, tu vois là, les ados en ce moment, la mode, elle est très 90. Et pour moi, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mmh. Et ma fille qui est à fond dans la tendance 90 et tout, ben moi je m'éclate.
Qui a 15 ans, c'est ça?
Qui a 14 ans. Je m'éclate à aller lui trouver des jeans Levi's, des sweats fluo, tu vois. Mm-hmm. Je trouve ça génial. Mais pour moi, c'est un vêtement vintage. Ça a traversé une époque qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et quand tu regardes les marques de mode aujourd'hui, pour ne pas les citer, il y en a des tonnes. Je veux dire, quand tu as un œil aiguisé de la mode, tu sais très bien que ça vient du vintage.
Mm-hmm. Bah, il suffit de voir sur Instagram, hein, y a beaucoup de directrices artistiques qui postent, sans attaquer personne, parce que moi, je suis la première à le faire aussi, hein, qui postent des espèces de mood boards avec leurs inspirations. Et la plupart de ces mood boards sont pris dans les années... Alors, on a eu une période avec Jane Birkin, maintenant on a une avec Romy Schneider, et maintenant on a une période, c'est très années 90, Stéphanie de Monaco, etc. Ouais. Diana.
Complètement.
Comment tu fais pour trouver des perles rares? C'est-à-dire, quelle est la première qualité qu'il faut pour être une bonne chineuse?
Alors, je crois que la qualité qu'il faut, j'allais dire la patience, mais en fait, pour moi, c'est pas une question de patience, c'est une question de passion. Parce que moi, je peux passer 2 heures dans le kilo shop, hein, parce que je vais faire tous les cintres.
Et t'essayes, tu les essayes les vêtements ou pas? Ou tu regardes comme ça au feeling?
Ah non, je sais, j'ai pas besoin d'essayer.
C'est au feeling?
Ah ouais.
Mais comment tu fais pour nous trouver une veste en peau lainée? Moi, je fais un blocage sur cette veste. T'en as trouvé deux d'ailleurs.
J'en ai deux, ouais.
Mais comment t'as fait?
Eh ben écoute, c'est un jour, j'allais au cinéma avec mes filles, et donc on passait avenue de Clichy, et on passe devant le Guérissol, avenue de Clichy. Pas vraiment l'endroit où je vais très souvent d'ailleurs, Guérissol, parce que...
Ça donne pas, on n'a pas très très envie
de... Pour le coup, ça donne vraiment pas envie. Puis bon, il y a une époque, il y avait du vrai vintage, et là maintenant, c'est un peu un dépôt-vente de vêtements. Et on était en avance pour aller au cinéma, on s'arrête devant, je dis à mes filles, attends, je vais aller regarder 5 minutes et tout. Bon, mes filles ont crié au drame qu'on rentre dans ce magasin en disant...
Oh mais non, maman,
c'est
la
horrible,
honte.
La honte, c'est sale, pourquoi tu regardes ça? Et là, ben bim, coup de cœur, je la vois. Et voilà, et je l'essaye et tout. Et je me rappelle, ma fille de 14 ans m'a dit, mais c'est horrible, quelle horreur. Et j'ai dit, non mais écoute chérie, tu verras dans quelques années, si je l'ai toujours, tu me la demanderas. Et voilà, et puis bah, j'ai demandé le prix, c'était 25, tu sais, après j'ai l'habitude de négocier, parce que voilà,
ouais,
c'est le jeu, hein, c'est pas pour...
Tu conseilles aux gens de négocier?
Bah ça dépend quoi, moi j'ai pris l'habitude sur des trucs comme ça, de négocier un petit peu, quoi. Donc voilà, mais faut pas le faire systématiquement, il y a des endroits où tu trouves des trucs à 10 euros, tu vas pas négocier.
Oui,
tu vois.
Évidemment. Oui.
Voilà, et donc j'ai trouvé cette pépite. C'est vrai que c'était... Tu vois, parfois, il y a des choses... Il y a des vrais coups de cœur et des vraies pépites, et parfois, il y a des choses, tu t'emballes, et puis quelques jours après, tu te dis, ouais, c'est quand même un peu dur, ça, je sais pas avec quoi je vais le mettre.
Et là, dans ce cas-là, tu revends? Qu'est-ce que tu fais ou tu gardes?
Alors, je revends pas. J'ai vraiment du mal à revendre les pièces vintage, tu vois. Ça, c'est... Je suis hyper attachée, comme une collection. Donc, si quelqu'un vient à la maison et me dit, ah, j'adore, je vais dire, bah, prends-le. Ça me fait plaisir. Voilà. Mais je vais pas le vendre. Mm-hmm.
D'ailleurs, au pied, t'as des superbes chaussures Chanel blanches.
Ouais.
Le prix?
25,
voilà.
Ouais, bah celle-ci, tu vois, celle-ci, c'est sur Vinted. Je cherchais des Nike Dunk pour ma fille, qui n'en trouve plus parce que c'est en rupture de stock en ce moment partout. Et évidemment, bah voilà, qui dit Nike Dunk dit pour moi, ben non, faut pas acheter les neuves, faut en trouver des...
Évidemment.
Des anciennes, surtout quand on aime la basket, quoi. C'est un peu comme le jean. Et en cherchant les Nike Dunk, je pars d'un truc à un autre, bref, je...
Tu te retrouves sur des pompes
la toile
Chanel pour maman.
Je me retrouve sur des ballerines Chanel.
Alors, il y a un truc que je voudrais... On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. C'est vrai que ce que je remarque aussi en ce moment, c'est qu'il y a un mouvement où on a tendance à rendre le vintage très, très, très cher. Et toi, tu me dis qu'il ne faut pas abuser non plus.
Non, parce que déjà, ce sont des vêtements qui ont été portés.
C'est important de le dire.
Exactement. Donc, tout le monde n'est pas fan de ça. Hein. C'est une démarche déjà qui est... Tu vois, j'ai plein d'amis qui me disent « Ah, moi, des chaussures qui ont été portées, je ne les achète pas. » Donc, après, c'est une volonté aussi d'acheter des pièces qui ont été portées par quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas trop d'où elles viennent. Je pense que de toute façon, on y viendra de plus en plus au vintage parce que la démarche RSE aujourd'hui et tout ce qu'on est en train de vivre fait que on va se tourner vers des pièces justement réutilisables, qu'on va se réapproprier, etc. Donc, au profit plutôt de grosses usines voilà, qui font fabriquer dans d'autres pays. Donc, je pense qu'on va y revenir. Après, moi, ce que j'aime dans le vintage aussi, c'est... ce que j'aime, c'est faire plaisir aux autres, en fait. J'adore, j'ai tout le temps des copines qui me disent « Ah, ça, j'adore, ah, je cherche un truc comme ça. » Et partir en quête pour trouver le truc.
Donc là, en fait, tu es en train de nous dire que on peut s'adresser à toi et tu pars en quête pour nous.
Avec grand plaisir.
Ok, bah, toute personne qui entend cet épisode, vous entrez en contact avec moi et je vous mets en relation avec Sonia. D'ailleurs, je vais te passer des commandes aussi. Quelle est ta tenue ADN ?
Alors, ma tenue ADN...
C'est les jours où tu te sens pas trop beau. Tu dis, voilà, je mets ça, je suis sûre que je serai irrésistible.
Pantalon bleu de travail.
C'est ce que tu portes là.
Ouais.
Toi, tu te sentais pas irrésistible ce matin ?
Pas forcément, non. Pas ce matin, mais c'est rare que je me sente irrésistible. Mais je me dis, ce pantalon, je l'adore parce que pour moi, déjà, c'est...
Chiné aussi.
C'est un ADN très fort. Mmh. La couleur, elle est juste sublime. Et tu le mets avec des talons, tu le mets avec des sandales, tu le mets avec des baskets.
Et tu le portes aussi avec un haut Marcel.
Ah ouais. Et c'est confortable. Très, très important quand je trouve. Il n'y a rien de pire que de marcher avec 10 cm de talons et être mal à l'aise et pas savoir marcher, tu vois. Donc les vêtements, c'est pareil. Je trouve qu'il faut, il faut être bien dedans, il faut être confortable.
D'ailleurs, tu l'as porté, tu l'as accessoirisé ce pantalon. C'est ça, quand tu parles d'approprier le vêtement, c'est pas mal parce que moi j'en ai un comme ça, je le porte vraiment en taille basse.
Ouais.
Toi, hop, tu l'as monté et tu mets une autre ceinture, t'as mis une ceinture très féminine autour de la taille.
Bah ouais, bah c'est ce que j'adore ça, avec ce pantalon, c'est que tu peux le porter tel qu'il est prévu au départ et puis tu peux le modifier. Et je trouve ça assez, c'est singulier quoi. Mmh. Voilà, je trouve que c'est singulier.
Et pour un rendez-vous galant?
Alors, pour un rendez-vous galant, j'aurais tendance à faire l'inverse de ce que l'on pourrait penser au départ. C'est-à-dire, si j'ai un rendez-vous galant, je ne mettrais pas des talons et une robe, par exemple.
Je sais, tu me l'as déjà dit. Je voulais que tu le redises dans le micro.
Ouais, parce que c'est too much. Je déteste, en fait, tout ce qui n'est pas approprié ou too much. Tu sais, comme les nanas qui font 10 heures de vol quand je travaillais à New York et que j'arrivais dans l'avion et que je voyais des nanas avec 10 cm de talons pour faire 10 heures de vol. Et je me disais, mais quel est le but, en fait?
Elles n'ont pas les chevilles qui gonflent dans l'avion. C'est tout, elles ont de la chance.
Ouais, mais tu vois ça, moi, et j'ai aucun snobisme avec la mode et même en règle générale, je déteste les gens snobs. Mais je trouve ça, si je devais catégoriser quelqu'un de plouc, je dirais que c'est quelqu'un, voilà, qui en parlant de mode, bien sûr, mais qui a le vestiaire inapproprié par rapport à la situation.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais ?
Alors ça, c'est une question difficile. Le vêtement que je porterai jamais, je dirais des cuissardes. Je crois que je peux porter beaucoup de choses. Les cuissardes, j'ai vraiment du mal. Je crois que c'est un article que j'aurais du mal à détourner.
Tu vois. C'est rare de les voir très bien portés d'ailleurs.
Ouais, et après, tu vois, au moment où je te réponds, je me dis une paire de cuissardes en daim plate sur une nana qui est mince. Tu vois, ça peut être joli, hein.
Oui, mais sur toi.
Mais moi, non, ça colle pas avec déjà mon physique, je pense.
Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime toutes les femmes ? S'il y a un vêtement à avoir dans sa garde-robe ?
Alors, double question, parce qu'un vêtement qui sublime toutes les femmes, question très difficile. Un vêtement qu'il faut avoir dans sa garde-robe, pour moi, c'est un jean.
Un jean, mais le
un
bon
beau jean.
Jean,
quoi. Le jean.
As-tu trouvé le jean de ta vie, justement ? Tu m'as tendu une perche, là.
Pour moi, le jean idéal, c'est le Levi's.
501 ou...
501.
Vintage ou neuf ?
Ah ben non, vintage.
Qui a déjà été porté. Où est-ce que tu les trouves, les tiens ? Tu les chines où ?
Dès que j'en trouve partout. J'en trouve partout, mais c'est assez dur d'en trouver des suffisamment bien délavés, avec la bonne coupe. Mais je crois que le jean Levi's fera toujours les plus belles fesses du monde, tu vois.
Une question quand même. Quel prix maximum mettrais-tu dans un jean Levi's? Parce que ça, on en reparlait, je te parlais des prix tout à l'heure, mais là, on peut le dire. Quelle est la barre à ne pas dépasser pour un jean vintage?
Alors, j'ai pas l'impression que ça s'enflamme beaucoup parce que j'en achète pas mal des jeans, tu vois, et j'en ai même, j'en achète pour mes filles maintenant. Mais le prix moyen pour un joli Levi's aujourd'hui, ça dépasse pas 30 euros.
30 euros, voilà. Alors qu'il y a beaucoup de sites de seconde vente, de seconde main, maintenant qui les vendent à 50, 60, 70 euros. Hein.
Facile. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ben, je trouve ça un peu cher.
Tiens-tu compte du regard des autres, au final?
Par rapport à la mode ou en règle générale?
Bon,
pas beaucoup. Pas beaucoup.
Ouais, si quelqu'un te dit non, mais alors j'aime pas du tout ton pantalon.
Ouais,
est-ce que alors, tu lui réponds à cette personne?
Ah, mais moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Si tu te fous de moi, je serai la première à rigoler. Mais je peux être morte de rire parce que tu te moques de ma tenue. Mais si ma tenue me plaît, c'est l'essentiel. Je me fous complètement de ce que pensent les autres.
Ça ne
me déstabilisera pas, quoi.
Le matin, t'es du genre à rester trois plombes devant ton dressing ou devant le miroir de ta salle de bain?
Non, pas devant le miroir, non.
Devant le dressing.
Plutôt devant le dressing. Il y a des jours où je sais très bien comment je veux m'habiller. Il y a des jours où je peux passer une heure à me demander.
Mais en fait, tu t'habilles pour toi, pas pour les autres.
Ah oui, jamais. Ou pour la situation que je vais vivre dans la journée. Forcément, il y a des situations différentes, quoi.
L'accessoire est-il important pour toi?
Oui, beaucoup.
Là, tu as des boucles d'oreilles qui me font de l'œil. Et ce sont des boucles d'oreilles vintage que tu as chinées, bien évidemment, qui sont sublimes.
Merci. Eh bien, écoute, c'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées au vide-grenier de la rue des Martyrs il y a une semaine.
Combien? 2 euros.
10 euros. 10 euros.
C'est vrai que tu as souvent des clips ou des.
J'ai des
ceintures
aussi.
Lubies. Beaucoup de ceintures.
J'ai un gros coup de cœur depuis pas mal de temps sur justement le côté un peu bling bling des années 90. Alors, c'est beaucoup plus dangereux de se laisser aller parce que ça peut vite être sapin de Noël. Mais j'aime bien ce côté un peu too much des années 90, tu vois.
Quel est ton dernier achat?
Mon dernier achat?
Fringue.
Fringue, ouais, bien sûr. C'est ce débardeur, qui est un débardeur qui vient d'Italie, qui est vraiment le débardeur blanc par excellence, mais c'est le bon coton. C'est un monsieur qui vend que des vêtements de l'armée, etc., mais qui est passionné par son métier.
Où est-ce que tu l'as trouvé? Chez qui?
Alors, je l'ai trouvé rue des Abbesses, à justement une brocante. Et j'avais déjà acheté pas mal de choses chez lui il y a quelques années. Et là, il avait ce lot de débardeurs qui bradaient parce que on attaque l'hiver et il m'a dit je les ai reçus trop tard et tout. Et je sais pas, le coton était très beau. Ça me fait penser aux débardeurs que les petits garçons avaient quand ils allaient se coucher,
oui,
tu vois, dans les années
60. Même petit bateau, hein, tout simplement.
Ouais, mais il y a le côté côtelé qui donne un petit côté un peu justement un peu ancien, voilà.
Et ton prochain achat, c'est quoi ta prochaine target?
Oh,
pas forcément vintage, hein.
Pas forcément vintage, non, parce que je suis pas que en vintage. Hein. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses que j'ai pas d'envie particulière dans l'immédiat. Non, il y a un truc que j'adore et que j'ai beaucoup de mal à trouver, c'est des vêtements en éponge. J'adore la matière éponge.
Mais là, on entre dans une période où ça va être moins facile à porter.
Mais je trouve qu'à la femme, il y en a très peu. À l'homme, t'as souvent des jolis sweats en éponge. Voilà. Mon envie aussi, c'est un très beau pull camionneur. J'ai beaucoup de mal à trouver ça aussi.
C'est un bon basique.
Exactement.
Difficile à trouver. Quelle est ta définition de l'élégance?
Je pense que l'élégance, c'est une attitude avant tout. Donc, j'aurais pas de définition. Pour moi, l'élégance, c'est quelqu'un qui s'aime, qui est bien dans sa peau, qui est en phase avec lui-même. Je pense que c'est pas une question de vêtements.
Une seule réponse. Pour la nuit, pige ou nuisette?
Une seule réponse, t'es dur. Hein. Pige ou nuisette? Alors, ça dépend quelle pige. Hein. Si c'est la grenouillère
aussi,
avec des cœurs dessus, je te dirais que non. Pyjama d'homme, oui.
Pantalon moulant ou à pince?
À pince.
Jean taille haute ou taille basse?
Taille haute.
Pourquoi taille haute tout de suite? Comme si c'était une évidence.
Parce que je trouve qu'une taille haute, en règle générale, fait vraiment une plus belle silhouette.
Mini-jupe ou jupe midi?
Jupe midi.
Que regardes-tu en premier chez une personne que tu croises pour la première fois?
Les yeux.
Quel est le vêtement ultra sexy pour un homme?
Une chemise.
Si tu étais une chaussure?
Une sandale.
Du genre? Ouais, ça me suffit pas, une sandale à talons, plate.
Ah non, une sandale chic et simple, avec des beaux pieds.
Alors, oui, c'est plutôt le beau pied qui fait la sandale ou c'est le sandale qui fait la sandale qui fait le beau
un
pied?
Un peu des deux.
C'est beau ce que je viens de dire. Si tu devais garder un seul vêtement de ta garde-robe?
Un jean.
Si tu étais un sous-vêtement?
Un body.
Un adjectif qui te caractérise?
Positive.
Merci infiniment, Sonia.
Merci à toi.
Merci à vous, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.